Bonsoir à toutes et à tous. Un tueur, c'est ainsi que Joe Biden a qualifié Vladimir Poutine, des termes inhabituels et fort peu diplomatiques. Mais l'Amérique de Joe Biden a également durci le ton contre la Chine, accusée de procéder à un génocide contre les Ouïghours. Jeudi soir, en Alaska, les deux super grands, Chine et États-Unis, ont étalé au grand jour et sans retenue leurs désaccords irréconciliables et leurs confrontations sans merci. Comment interpréter cette double offensive très rude, à la fois contre la Chine et Vladimir Poutine? Joe Biden est-il un faux doux, un vrai dur en matière internationale? Avec quelles conséquences? Avec quel risque d'escalade? Quel rôle l'Amérique entend-elle jouer dans le concert des nations? Et quelle sera la place des Européens? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Chine, Russie, Biden montre les crocs ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Bondaz. Vous êtes chercheur à la Fondation de recherche stratégique, spécialiste de la Chine. Vous êtes également enseignant à Sciences Po. Alexandra de Hoopscheffer, vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis et des relations transatlantiques. Vous dirigez à Paris le think tank German Marshall Fund of the United States. En duplex, on retrouve Pascal Boniface. Vous êtes directeur de l'IRIS, auteur de l'Atlas géopolitique du monde global avec Hubert Védrine. C'est aux éditions Armand Collin. Et enfin, Nicole Bacharan, historienne, politologue spécialisée des États-Unis, auteur avec Dominique Simonet des Secrets de la Maison-Blanche, qui vient d'être réédité en poche. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Pascal Boniface, on commence avec vous. Avez-vous été surpris d'entendre ce mot tueur, ce qualificatif tueur utilisé par Joe Biden pour qualifier Vladimir Poutine? Est-ce qu'on se trompe en disant que même du temps de la guerre froide, on n'entendait pas des insultes ainsi, des noms d'oiseaux de cette espèce?
Non, effectivement, c'est effectivement un mot très fort. On ne discute pas avec un tueur, normalement. Donc, quelles seront les relations par la suite? Alors, du temps de la guerre froide, Reagan avait parlé de l'empire du mal, ce qui avait été contesté. Mais le fait de qualifier de tueur comme cela son homologue russe, c'est tout à fait inédit. Ça fait des décennies qu'il n'y a pas ce niveau d'insulte, parce que tueur, c'est une insulte quand même, quel que soit. Et donc, c'est effectivement un ton viril, pour ne pas dire agressif.
Alors Pascal Boniface, vous pensez, pourquoi l'a-t-il fait? Est-ce que c'était délibéré? Parce qu'en fait, il répond à une question. Le journaliste lui dit, pensez-vous que Vladimir Poutine est un tueur? Et Joe Biden répond, oui, je pense.
Oui, I do, c'est quand même très très fort. Alors, ben, il veut montrer son emprise, il veut montrer qu'il n'est pas Sleepy Joe, mais qu'il veut prendre Trump à son propre piège. Trump n'a pas arrêté de dire que Biden était un mou. Il veut montrer au contraire qu'il est très fort, qu'il est costaud, qu'il tape du poing sur la table et que America is back et l'Amérique est de retour. Elle l'est de façon extrêmement forte. Donc c'est un peu finalement l'empire contre-attaque.
Nicole Bacharan, alors Sleepy Joe, c'était le surnom que donnait Donald Trump à Joe Biden, un Joe l'endormi. Mais c'est vrai qu'on l'a toujours présenté un peu comme un papy gâteau. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un... Est-ce qu'en fait, on s'est trompé? Et c'est un fieffé bagarreur, Joe Biden?
Oui, je pense qu'on peut dire ça. Et je crois surtout, tant en politique intérieure qu'en politique internationale, ce qu'on voit depuis son début de mandat, le 20 janvier, c'est que c'est un homme qui n'a pas de temps à perdre. Il fera certainement qu'un seul mandat, ça paraît très probable. Il essaye d'agir très vite vis-à-vis de la crise sanitaire, de la crise économique. Et en politique étrangère, ce qu'il a dit à Vladimir Poutine, c'est bon, on va arrêter les jeux, on va arrêter le baratin, on va juste poser les choses sur la table. Je ne pense pas du tout que Vladimir Poutine ait pris le terme tueur comme une insulte. Je pense qu'il le sait, le monde entier le sait, il en est assez fier. Voyons son comportement en Syrie, son comportement passé en Tchétchénie, voyons tous les opposants qu'il a éliminés. Et d'ailleurs, dans cette conversation que Joe Biden rapporte, il dit qu'il a longuement parlé avec Vladimir Poutine, que leur prochain rendez-vous est déjà pris au téléphone. Poutine l'a également confirmé. Et effectivement, Vladimir Poutine est un tueur. On peut parfaitement discuter avec lui de manière, c'est difficile, mais c'est nécessaire, puisque effectivement, c'est le président de la Russie, il est hors de question de l'ignorer, mais il vaut mieux arrêter de jouer à des jeux diplomatiques qui n'ont plus cours.
Antoine Bondaz, donc attaque vis-à-vis de Vladimir Poutine, attaque également des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Jeudi soir, les Américains ont employé, ont dénoncé le génocide des Ouïghours qui serait perpétré par les Chinois. Donc là, le mot, il a été calculé, il a été délibéré. C'est une attaque frontale contre la Chine.
Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de nouveaux éléments de langage lors de la rencontre en Alaska. C'est-à-dire que ce qu'ont dit les Américains aux Chinois face aux caméras, c'est ce qu'ils disent aux Américains. Et donc, il n'y a pas eu un nouveau discours, il n'y a pas eu une agressivité particulière. Il y a eu, entre guillemets, un discours extrêmement cash, extrêmement direct, sans forme, de la part du ministre des Affaires étrangères, de fait, et de la part du conseiller national à la sécurité. La réponse chinoise a été glaciale. Je pense que, et on l'a vu aujourd'hui, que les autorités chinoises ne s'attendaient pas à une attaque aussi frontale de la part des Américains. Ils pensaient que, étant donné que les Américains accueillaient la rencontre aux États-Unis, puisqu'en Alaska, les Américains allaient mettre les formes, ça n'a pas été le cas. Et on a vu que la réponse des Chinois était extrêmement ferme, puisque alors que les deux Américains s'étaient exprimés pendant 2 minutes, 3 minutes, Yang Jiechi, le conseiller pour les affaires étrangères au sein du parti, a parlé pendant plus de 15 minutes, des propos extrêmement fermes, extrêmement agressifs. Et cela fait suite notamment à ce qui s'est passé avant cette rencontre, c'est-à-dire une démonstration de force des Américains avec un effort de coordination sans précédent avec leurs alliés et leurs partenaires en Indo-Pacifique, mais aussi en Europe. Le voyage au Japon, le voyage en Corée du Sud, le coup de téléphone aux homologues français, britanniques et allemands. Les Américains sont allés en Alaska pour dire aux Chinois « nous ne sommes pas seuls, nous sommes extrêmement déterminés et cette fois-ci, nous allons négocier ce qui est négociable, mais nous n'allons faire aucune concession sur les intérêts des États-Unis », ce à quoi les Chinois ont répondu exactement la même chose.
Pascal Boniface, quand on utilise l'expression diplomatique, ça veut dire qu'on y met les formes. On peut dire que ce qui est nouveau, c'est que là, on a un Joe Biden, une administration américaine qui, dans sa diplomatie, ne met plus les formes, ne fait plus de diplomatie, entre guillemets, à l'ancienne.
Alors, si effectivement le langage diplomatique, c'est d'arrondir les angles, moi, que l'on puisse dire, c'est que Joe Biden ne le fait pas, puisque le terme de génocide est encore plus fort que le terme de tueur. Il est difficile, finalement, de traiter avec un pays qui se livre à un génocide. Donc, effectivement, on peut dire que Joe Biden a choisi de taper fort, de taper extrêmement fort pour marquer son territoire, aussi bien sur le plan interne que sur le plan international. Il veut montrer un retour en force des États-Unis, aussi bien d'ailleurs par un plan de relance phénoménal équivalent au PIB de l'Italie, par un plan de vaccination phénoménal qui va faire que les États-Unis, qui étaient le pays le plus touché par le Covid-19, va être un pays où pratiquement toute la population va être vaccinée avant l'été. Et puis sur le plan diplomatique, montrer les muscles par rapport aux deux rivaux désignés, celui d'hier mais qui reste toujours dans le paysage, la Russie, et celui d'aujourd'hui et de demain, la Chine, qui est quand même le véritable défi pour les États-Unis. La priorité pour Biden, ça sera bien la Chine. Elle était aussi pour Trump, mais Biden va accuser finalement Trump d'avoir laissé la Chine monter en puissance tout au long de son mandat, et lui veut montrer qu'il est capable finalement d'accélérer pour mieux maîtriser la montée en puissance de la Chine.
Alexandra de Hoopscheffer, est-ce qu'on peut dire que l'Amérique se crispe parce qu'au fond, elle a la hantise de perdre sa place de numéro un mondial, de se faire renversé par la Chine?
C'était tout le principe d'America First, l'Amérique d'abord de Trump. C'était pas seulement les intérêts des Américains d'abord, c'était comment profiter du statut de première puissance mondiale, ce qui est le cas toujours des États-Unis, pour pouvoir négocier ou renégocier avec les alliés, mais aussi avec les rivaux et les adversaires des États-Unis, avant qu'éventuellement la Chine ne devienne la plus grande puissance mondiale. Et donc effectivement, il y a vraiment un effet d'urgence à Washington, que ce soit au département d'État ou au Pentagone. Et ce qui était très intéressant dans ce dialogue très abrupt entre Tony Blinken, le secrétaire d'État américain, et ses homologues chinois, c'est qu'on voyait vraiment la manière dont ces deux pays se perçoivent de manière différente. La Chine perçoit depuis maintenant de nombreuses années les États-Unis comme une puissance en déclin, d'où ce discours plein de certitudes. En fait, le Chinois retournait le miroir vers Blinken quand Blinken disait, voilà, la liste de toutes les violations des droits de l'homme par la Chine. Blinken, le Chinois, a retourné le miroir et a dit, mais l'Amérique, regardez-vous aussi. Regardez-vous comment...
Regardez votre modèle, vous avez Black Lives Matter.
Voilà, l'état de votre démocratie. Et ça, c'était...
Le Capitole.
Voilà. Et donc, ça, pour moi, c'était extrêmement fort parce que ça montre aussi comment l'hégémonie américaine, la manière dont elle promeut le modèle démocratique à l'américaine, est de plus en plus contestée. Et pas seulement par la Chine, mais par de nombreux pays dans le monde. Et inversement, les États-Unis, vous l'avez justement dit, perçoivent la Chine de plus en plus comme une puissance qui s'affirme dans le domaine technologique, économique, diplomatique, militaire. C'est ce qui crée l'état d'urgence aussi hein, aujourd'hui au Pentagone. On a eu une audition notamment du commandant du commandement indo-pacifique américain, l'amiral Davidson, devant le Congrès il y a quelques jours, qui dit que si rien n'est fait d'un point de vue militaire dans la région, que la Chine serait capable de conquérir Taïwan en l'espace de 6 ans.
On va y revenir sur Taïwan. Hein. En tous les cas, c'est vrai, hein, les deux premières puissances mondiales ont décidé de montrer leurs muscles. En Alaska, hier, les représentants de la Chine et des États-Unis se sont rencontrés pour la première fois depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Un face-à-face diplomatique très tendu, décrypté pour nous par Paul-Rémy Barjavel et Benoît Thébault.
La neige et le froid de l'Alaska, terrain choisi par les États-Unis et la Chine pour leur première rencontre diplomatique de l'ère Biden. Les deux pays avaient promis de tout se dire. Le secrétaire d'État américain n'a donc pas retenu ses coups. Nous discuterons de nos préoccupations profondes concernant les actions menées par la Chine, y compris au Xinjiang, à Hong Kong, à Taïwan, des cyberattaques sur les États-Unis, de la coercition économique envers nos alliés. Chacune de ces actions menace l'ordre fondé sur des règles qui maintiennent la stabilité mondiale. Face à lui, deux hauts dignitaires chinois, piqués au vif, lui font immédiatement une petite mise au point.
La Chine, comme elle l'a fait dans le passé, n'acceptera jamais les critiques sans fondement. Nous devons exiger que les États-Unis abandonnent leurs actions hégémoniques d'ingérence dans les affaires intérieures de la Chine. Ce vieux défaut doit être corrigé.
Un échange houleux, rarissime, dans un cadre diplomatique. Illustration des tensions et du fossé qui séparent les deux premières puissances mondiales. Les médias officiels chinois n'ont d'ailleurs pas manqué de dénoncer l'attitude américaine.
Ce n'est pas une façon de traiter vos invités. Cela viole les protocoles diplomatiques.
Des protocoles diplomatiques mis à mal par les accusations répétées de Washington contre Pékin. Les Ouïghours, la répression à Hong Kong, la relation entre la Chine et Taïwan, ou encore la guerre commerciale. 15 jours après son élection, Joe Biden avait d'ailleurs annoncé la couleur.
Nous allons faire face aux abus économiques de la Chine, contrer sa ligne de conduite agressive pour repousser les attaques de la Chine sur les droits de l'homme, la propriété intellectuelle et la gouvernance mondiale.
L'administration de Joe Biden, dans les pas de celle de Donald Trump, même hostilité à l'égard de Pékin, mais méthode différente. Les États-Unis veulent s'appuyer sur leurs alliances régionales en Asie et dans le Pacifique. Première étape de leur offensive diplomatique, ce sommet virtuel avec les premiers ministres indiens, japonais et australiens.
Un espace indo-pacifique libre et ouvert est essentiel pour notre futur et chacun de nos pays. Les États-Unis sont déterminés à travailler avec vous, nos partenaires et tous nos alliés dans la région pour parvenir à la stabilité.
Objectif, produire 1 milliard de vaccins contre le Covid-19 en Inde d'ici 2022 pour contrer l'activisme chinois et leur diplomatie du vaccin. Une initiative qui ne plaît pas du côté de Pékin. Depuis l'élection de Joe Biden, Xi Jinping ne cesse de dénoncer la stratégie d'alliance américaine.
Bâtir des clans ou déclencher une nouvelle guerre froide, rejeter, menacer ou intimider les autres, imposer le découplage, le bouleversement des chaînes d'approvisionnement ou des sanctions afin de provoquer l'isolement ne fera que pousser le monde dans la division et même la confrontation.
Cette semaine, la tournée diplomatique du secrétaire d'État américain l'a amené au Japon et en Corée du Sud. La péninsule coréenne, autre enjeu en Asie pour l'administration Biden.
Nous nous engageons à la dénucléarisation de la Corée du Nord, à réduire la menace que ce pays représente pour les États-Unis et nos alliés, et à améliorer la vie de tous les Coréens, y compris le peuple nord-coréen, qui continue de souffrir largement des abus systématiques de la part de son gouvernement répressif.
La semaine dernière, des exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis ont attisé la colère de Pyongyang. Pour la première fois depuis l'investiture du président américain, le régime communiste menace Washington.
Si vous voulez dormir tranquille pendant les 4 ans à venir, vous feriez bien de ne rien entreprendre qui vous fasse perdre le sommeil.
Depuis le mois de janvier, la nouvelle administration américaine a bien tenté d'entrer en contact avec le dirigeant nord-coréen, mais Pyongyang, pour l'heure, refuse tout dialogue avec les États-Unis.
Alors, question téléspectateur, la réaction de la Chine ne montre-t-elle pas qu'elle craint plus Joe Biden que Donald Trump, Antoine Bondaz?
Je pense que c'est en partie vrai. On a beaucoup dit que Trump était imprévisible et que c'était vraiment ce qui inquiétait les Chinois. Mais l'énorme avantage de l'administration Biden, c'est la coordination. La coordination en interne, mais aussi en externe. En interne, on le voit avec la nomination, y compris au Conseil national de sécurité, d'un coordinateur pour l'Indo-Pacifique. La volonté, lorsqu'ils font des déplacements à l'étranger, d'y aller en tandem. On l'a vu au Japon avec le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères. On le voit en Alaska avec le ministre des Affaires étrangères et le conseiller national à la sécurité. Et cette coordination interne et externe, c'est évidemment quelque chose qui, pour Pékin, représente une menace. Et s'il y a eu une semaine avant le sommet en Alaska, le premier, il faut bien le préciser, le premier sommet présidentiel au niveau du chef de l'exécutif entre les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde, c'est évidemment pour envoyer un message extrêmement fort à la Chine. Mais il y a une deuxième dimension. Ce n'est pas uniquement ce que font les Américains qui inquiètent, c'est également ce que font les Chinois. En Chine, il y a depuis désormais plus d'un an, à la faveur de la pandémie, un nouveau discours en Chine extrêmement strict, extrêmement ferme, qui met en avant la supériorité du modèle politique chinois, qui met en avant le déclin du modèle politique américain. Et Alexandra l'a parfaitement rappelé précédemment. Et c'est sur cela que veut capitaliser Xi Jinping pour renforcer un discours extrêmement nationaliste en interne et profiter évidemment de toutes les critiques américaines pour renvoyer la balle aux États-Unis, rejeter la balle aux États-Unis. Mais le principal problème, et pour finir là-dessus, pour la Chine, c'est que les États-Unis aujourd'hui ne sont pas véritablement seuls. Si l'Europe, par exemple, n'est pas alignée sur les États-Unis, elle devrait lundi prendre des sanctions sur plusieurs dirigeants chinois sur la question des droits de l'homme au Xinjiang. Les Chinois ont déjà menacé à travers la voix de leur ambassadeur à Bruxelles. Et le principal défi pour la Chine, c'est de réagir fermement, mais de ne pas en faire trop, puisque s'ils en font trop, cela va faciliter la coordination.
Pascal Boniface, sur ce modèle de régime, est-ce que les Chinois n'ont pas marqué un point jeudi soir quand ils font remarquer que la démocratie américaine... Elle a provoqué le Capitole, il dénonce le racisme qui est le ressort du mouvement Black Lives Matter. Alors que les Chinois font remarquer, regardez chez nous, les sondages d'opinion sont assez bons. En tous les cas, le peuple chinois épouse la direction du Parti communiste chinois. Et finalement, les Chinois ont l'air de davantage adhérer à leur leader que les Américains n'adhèrent à le leur. Est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité là-dessus?
Ils ont marqué des points par rapport à leur propre opinion, parce qu'il y a une opinion publique chinoise. Néanmoins, ils n'ont pas marqué des points par rapport à l'opinion occidentale, puisque l'hostilité ou l'image négative de la Chine, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, l'image de la Chine devient de plus en plus négative dans l'ensemble du monde occidental. Et donc, les allusions sur les droits de l'homme marquent de plus en plus de points en Europe et aussi aux États-Unis. Par contre, effectivement, à chaque fois qu'il y a des attaques américaines, les dirigeants chinois disent « nous ne sommes pas attaqués pour ce que nous faisons, nous sommes attaqués pour ce que nous sommes ». Et les Américains, en fait, n'acceptent pas notre montée en puissance. Or, les Chinois sont plutôt, effectivement, fiers de leur montée en puissance et ils adhèrent au régime parce qu'ils voient un peu l'état du pays. Pour un jeune Chinois de 25-30 ans, ses grands-parents avaient du mal à se nourrir. Ses parents vivaient très mal et eux ont accès à la société de consommation et ils comptent en profiter beaucoup et ils ne sont pas encore au point d'ailleurs, peut-être que ça viendra d'ici une génération, de dire il y en a assez de la consommation, passons à d'autres choses. Donc en fait on voit bien qu'il y a une sorte de rideau de fer psychologique ou politique qui s'établit. Les Occidentaux ont une image encore plus négative qu'auparavant de la Chine, mais les Chinois ont une image encore plus négative qu'auparavant du monde occidental.
Nicole Balacharan, on la sent monter cette image négative aux États-Unis contre les Chinois. Il y a même eu d'ailleurs des fusillades contre des Asiatiques à Atlanta. Alors on ne sait pas si c'est un acte raciste, mais on sent dans la vie américaine, dans les quotidiens, qu'il y a un sentiment anti-chinois de plus en plus prégnant quand on vit aux États-Unis.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et le sentiment général que la Chine est une puissance hostile s'est très largement répandu. C'était la position de l'administration Trump d'une manière beaucoup plus brouillonne et chaotique. C'est la position de l'administration Biden. Et sur le plan du peuple américain, c'est vrai qu'il y a eu des attaques, des injures et ce drame à Atlanta, probablement raciste, contre les Américains d'origine asiatique. Donc le sentiment anti-chinois, avec tous les rappels de Donald Trump sur le virus chinois, etc., c'est tout à fait une réalité. Le fait qu'en Alaska...
Juste un mot pour illustrer ça, il y a eu un président noir, un président asiatique, ce serait compliqué aujourd'hui, d'origine asiatique, aux États-Unis ?
Ça serait compliqué, ça arrivera un jour. Mais néanmoins, c'est vrai que le sentiment anti-asiatique est fort. C'est vrai également que l'image de la démocratie américaine dans le monde est très dégradée après l'administration Trump. Aucun doute là-dessus. Donc les Chinois en Alaska face au ministre américain des Affaires étrangères, Tony Blinken, ont vraiment d'une certaine manière joué sur du velours en faisant un show qui était totalement prévu, même si le moment où ça s'est produit n'était peut-être pas exactement minuté pour la télévision chinoise et pour l'opinion publique mondiale, pour dire aux États-Unis « regardez dans quel état vous êtes ». Mais ce que j'entends par ailleurs de l'administration Biden, c'est que cette position chinoise très dure est aussi celle d'une puissance inquiète. La Chine s'est beaucoup durcie dans les dernières années. Elle est beaucoup plus rigide, beaucoup plus nationaliste, beaucoup plus autoritaire dans la main de Xi Jinping, qui est devenu président à vie. Mais par ailleurs, c'est un pays qui a ses fragilités. C'est un pays qui vieillit, qui est fragile, ouais. Vulnérable, disons au moins, sur le plan alimentaire, pas indépendant, sur le plan énergétique, importation d'une grande partie de son énergie et qui est contestée, on en parlera ensemble, par une partie de la jeunesse dans la sphère asiatique. Donc ce n'est pas c'est un pays en expansion économique, politique, mais ce n'est pas un pays forcément qui se sent très en sécurité.
Alexandra de Hoopcheffer, quand les Chinois disent jeudi soir « le peuple américain est certainement un grand peuple, mais le peuple chinois l'est aussi », on a l'impression que on leur dénie le droit de retrouver cette place de grand pays, peut-être de leader mondial qu'ils avaient autrefois et qui devrait leur revenir statistiquement, puisqu'on peut dire que la Chine, c'est le premier pays par habitant et donc théoriquement, ça devrait être le premier pays au monde.
C'est là où en fait on voit qu'il y a une compétition qui dépasse la compétition économique, diplomatique, stratégique. C'est une compétition avant tout idéologique. C'est vraiment le régime autoritaire et le régime démocratique. Et ça, on voit que c'est vraiment un leitmotiv de la diplomatie de Biden. C'est pour ça aussi qu'il refuse finalement de marchander la question des droits de l'homme avec la Chine. Jusqu'à maintenant, c'était on va coopérer avec la Chine sur le climat notamment. Et donc, parce qu'on a cette coopération avec la Chine sur le climat, on va un petit peu moins l'attaquer sur les droits de l'homme. Ça, on voit que Biden et notamment Blinken est arrivé avec un dossier comme ça sur la question des droits de l'homme et s'est dit on ne va pas marchander, on va essayer de traiter ces sujets ensemble. Mais ce qui fait que la relation États-Unis-Chine est une relation compartimentée. Et ça, Blinken l'a très bien dit. Il a dit que c'est une relation basée sur la coopération, sur la compétition et parfois la confrontation.
Donc on coopère, par exemple, sur le climat, mais sur ce qui est du modèle, nous sommes une démocratie, vous ne l'êtes pas, et là, ce sera la confrontation.
Exactement. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est qu'après cet échange très vif que vous avez montré, dès le lendemain, ils se sont mis à la table et ils ont travaillé sur les sujets de coopération. L'Iran, ouais. L'Afghanistan, le climat, et bien sûr la Corée du Nord, sur lequel la Chine a un rôle à jouer.
Antoine Bondaz, quand on est dans un rapport de confrontation, quelle forme cette confrontation peut-elle prendre et est-ce que ça peut déraper quand on commence à s'envoyer des... Est-ce qu'il y a un risque d'escalade ?
Il y a toujours un risque d'escalade suite, par exemple, à un accident. On se rappelle, par exemple, de 2001, un avion de reconnaissance américain qui est obligé de faire une procédure d'urgence et s'écrase. Et là, une tension sino-américaine considérable, c'était quelques jours avant le 11 septembre, et qui a mené un risque extrêmement important d'escalade militaire entre la Chine et les États-Unis. Ça s'est reproduit en 2008 avec un navire américain de renseignement en mer de Chine méridionale. Et donc, un incident qui, malheureusement, escalade, c'est toujours possible. Est-ce que, par contre, les deux pays, aujourd'hui, essayent de créer des incidents ? clairement pas. Et comme l'a rappelé parfaitement Alexandra, ils ont conscience qu'il y a des sujets sur lesquels il y a une confrontation. C'est quelque chose que la Chine a toujours assumé. Elle parle de ses intérêts fondamentaux. Elle considère qu'elle n'a aucune concession à faire et aucun droit de regard à donner sur le Xinjiang, sur le Tibet, mais aussi sur la question de Hong Kong et de Taïwan. Et donc la Chine, elle accepte parfaitement cette question de la confrontation. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que justement, sur les sujets de coopération, il peut y avoir une avancée ? Les Américains ont nommé un envoyé spécial du président, John Kerry, pour ces questions climatiques. Les Chinois ont également nommé un envoyé spécial, c'est quelque chose d'extrêmement positif, et on l'a appris par exemple il y a quelques heures, où un groupe de travail va être lancé sino-américain sur ces questions de changement climatique. Et donc au-delà vraiment de la com, il peut y avoir des avancées, il faut évidemment le souhaiter.
Nicole Bacharan, cette semaine il se trouve que Boris Johnson a dit mais c'est ridicule de vouloir isoler la Chine, il faut avoir un rapport lucide avec elle, et c'est vrai qu'on a l'impression à l'opposé que les Américains ont toujours besoin d'avoir en face d'eux un ennemi contre lequel se mesurer. Alors, ça a pu être l'URSS, ça a pu être Saddam Hussein, et on a l'impression que maintenant, ben ça y est, ils se sont trouvés un nouvel ennemi qui est au cœur de ce qui est l'ADN de ce grand pays qu'est les États-Unis, d'avoir un ennemi.
Je n'en suis pas si sûre. Historiquement, l'ADN des États-Unis, c'était de s'éloigner du monde. Les colons américains et les premiers Américains après la guerre d'indépendance, leur but surtout, c'était de ne pas se mêler des affaires du monde, de rester à l'abri entre leurs deux océans. C'est vraiment ça l'ADN américain, le fameux isolationnisme américain dont on parle si souvent. Mais là, d'abord, la planète a beaucoup changé, hein, cette illusion de l'isolationnisme a plus que vécu. Mais en plus, je rejoins ce que disait Alexandra sur il y a vraiment deux modèles. Le modèle autoritaire et le modèle démocratique. Ils sont en compétition et si l'un perd du terrain, c'est l'autre qui le gagne. Il y a une vraie menace pour tous les pays et tous les peuples et tous les individus d'ailleurs qui sont attachés à l'idée de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme. Donc en effet, la Chine est une puissance qui peut être perçue comme agressive. C'est pas juste un discours. Je veux dire, il y a des menaces en mer de Chine du Sud sur des navires de Malaisie, du Japon, et des heurts à la frontière avec l'Inde, des avancées en mer de Chine du Sud sur des îles qui sont militarisées alors qu'elles ne devraient pas l'être. Donc il y a une véritable position, disons, agressive de la Chine qui fait que le fait que les États-Unis les ressentent comme un concurrent, c'est désagréable, mais comme une menace, ça n'est pas totalement absurde.
Pascal Boniface, il y a deux modèles maintenant sur le monde, et le modèle chinois et le modèle américain, il va falloir choisir son camp.
Alors, il y a effectivement deux modèles en compétition et surtout, chaque gain de l'un est une perte pour l'autre. Ils ne peuvent pas gagner ensemble. Ils ont vraiment l'impression, comme au plus fort de la guerre froide, c'est qu'on ne peut pas gagner en même temps si la Chine avance. C'est que les États-Unis ont perdu et inversement. Ils ne peuvent pas gagner en même temps. Mais jamais dans l'histoire depuis 1945, les États-Unis ont été confrontés à un tel défi. L'URSS, au plus fort, ne faisait que 40% du PIB américain. La Chine est déjà à 70%. Elle ne faisait que 10% en 2001 lorsqu'elle est rentrée à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, il y a un défi économique, un défi technologique, puisque les BATX, les géants numériques chinois, viennent concurrencer les GAFAM. Il y a ce niveau aussi un défi stratégique. Aujourd'hui, il y a la Chine et le partenaire commercial principal de 64 pays, les États-Unis de 38. Donc, effectivement, c'est vraiment tout à fait inédit à vue humaine depuis des décennies pour les États-Unis. Il y avait un défi militaire soviétique, un défi technologique japonais dans les années 80. Ouais. La Chine incarne ces deux défis en même temps, plus le défi économique.
Alors, on l'a bien compris, hein, cette volonté d'hégémonie de la Chine est contestée aux États-Unis, mais elle l'est également dans plusieurs pays asiatiques où la population dénonce l'autoritarisme de certains gouvernements qui seraient directement inspirés par les méthodes de Pékin. Ainsi, en Birmanie, en Thaïlande, à Hong Kong, la jeunesse de ces pays se rebelle sous l'appellation mystérieuse de l'Alliance du thé au lait. Vous voyez ce sujet de Magali Lacroze et Erwan Ilion.
Début février, coup de théâtre en Birmanie. L'armée prend le pouvoir, les arrestations s'enchaînent. D'abord, la prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, d'autres dirigeants suivront. Dans la rue, Les manifestants sont réprimés violemment et pourtant continuent de vouloir se faire entendre. Parmi eux, des jeunes réclament la démocratie au Myanmar, la Birmanie.
La réaction des citoyens birmans, non seulement de la jeunesse, mais de l'ensemble de la société, montre bien que les attentes politiques sont similaires à la fois à Hong Kong, en Thaïlande, à Taïwan ou au Myanmar.
Les jeunes manifestants birmans arborent ce même symbole, les trois doigts levés, en signe de ralliement et d'appartenance à l'alliance du thé au lait. Née d'abord sur les réseaux sociaux, ce mouvement pro-démocratie dépasse les frontières et rassemble la jeunesse de plusieurs pays asiatiques.
Ce qu'il se passe en Birmanie peut arriver partout, en Indonésie, en Thaïlande, à Hong Kong. Alors ne fermons pas les yeux et levons les trois doigts pour montrer notre solidarité et notre soutien à ceux qui luttent pour un futur meilleur.
Le thé au lait pour ces jeunes, ce n'est pas seulement une boisson, c'est un symbole, un acte politique contre la Chine et son thé vert, sans sucre, un peu austère. La Thaïlande, la Birmanie, Hong Kong et Taïwan préfèrent le thé au lait, sucré. Une fronde de la jeunesse contre le régime de Pékin, mais plus globalement, contre tous les régimes totalitaires asiatiques.
En Thaïlande, il y a eu la volonté du Premier ministre quand même d'instaurer un dialogue, alors qu'en Birmanie, là, la répression est extrêmement sévère, de même qu'à Hong Kong. À Taïwan, en revanche, on a une volonté claire du gouvernement de Tsai Ing-wen, du Parti démocrate de l'actuelle présidente, de soutenir ces mouvements et de faire en sorte que Taïwan puisse devenir un pivot de soutien à ces mouvements.
À Taïwan, en septembre dernier, la jeunesse s'est rassemblée pour soutenir les jeunes manifestants thaïlandais qui, à Bangkok, font le même signe de la main que les jeunes birmans, demandant notamment la libération de militants et une réforme de la monarchie.
C'est un moyen pour notre génération d'afficher notre pouvoir. Nous voulons des changements dans ce pays.
À un an d'écart, les mêmes images, la même jeunesse, au lait. Les jeunes manifestants thaïlandais violemment réprimés par le pouvoir en octobre dernier, comme l'ont été les jeunes de Hong Kong en 2019 en lutte contre l'autoritarisme de Pékin. Joshua Wong, figure de la contestation hongkongaise, contribue à populariser l'alliance thé au lait en prenant position pour les Thaïlandais au moment même où les répressions de Bangkok ont lieu.
Les Thaïlandais et la Thaïlande inspirent les Hongkongais pour poursuivre notre combat pour la liberté. Nous demandons au monde entier de soutenir les militants et les manifestants qui sont opprimés.
Depuis, le jeune Hongkongais est emprisonné comme d'autres figures des contestations asiatiques, mais l'alliance du thé au lait est un mouvement sans tête.
Leur mode d'action, qui est un mode d'action très informel, très flexible, précisément, va à l'encontre, si vous voulez, d'une organisation, je dirais, pyramidale, qui est précisément dénoncée.
On est face à une génération qui a connu un vent de liberté. En Birmanie, il y a eu 5 ans de relative liberté sous Aung San Suu Kyi. Il y a eu une forme de démocratisation également en Thaïlande, qui a été remise en cause par le putsch de 2014. C'est une génération qui n'a pas l'intention de renoncer à cette liberté.
Une jeunesse engagée, solidaire, qui rêve de droits de l'homme et de démocratie, dont la voix n'a pas encore porté jusqu'en Europe.
Antoine Bandaz, c'est quoi cette jeunesse de différents pays donc, qui se regroupe, qui se trouve un point commun et qui parle de l'alliance du thé au lait?
Alors c'est symbolique, hein, ça vient d'un acteur thaïlandais qui avait, il y a plusieurs mois, mis un post sur Twitter qui présentait indirectement Taïwan et Hong Kong comme des pays. Les internautes chinois l'avaient ouvertement critiqué, lui avaient demandé de faire des excuses, il avait refusé. Et puis à partir de là, s'est créé du style, entre guillemets, cette alliance transnationale, si on peut dire, vraiment des mouvements de jeunesse. Ce qui est très important, c'est qu'entre guillemets, il y a cette unité dans la diversité. Ils reconnaissent qu'ils boivent tous du thé au lait, mais qu'il est dans chaque pays différent. Puis surtout, ils ont des aspirations qui sont communes. Et c'était vraiment bien dit dans le reportage, et Chloé Froissart l'a rappelé, et des aspirations à la démocratie. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, cette jeunesse, cette génération Z, du milieu des années 90 jusqu'aux années 2000-2010, considère que le développement économique ne peut pas se faire au détriment des revendications politiques et notamment des aspirations démocratiques, et que sur ce point-là, la jeunesse est prête à se mobiliser. Elle se mobilise, on le voit en Birmanie, avec malheureusement déjà plus de 200 morts. On le voit à Hong Kong, avec des dizaines de dirigeants politiques pro-démocratie qui sont mis en prison, dont des personnes qui ont moins de 25 ans. On le voit en Thaïlande, on le voit dans un grand ensemble de pays. Et c'est toujours le même message, c'est nous ne voulons pas sacrifier nos aspirations politiques, nos aspirations démocratiques, sur l'autel du développement économique.
Pascal Boniface, est-ce que ça pourrait ressembler à une sorte de printemps asiatique qui inquiéterait Pékin ?
Oui, bien sûr, c'est viral. La mobilisation se fait par les réseaux sociaux. Et il y a à la fois des racines nationales et en même temps un phénomène, si ce n'est continental, du moins plus régional au moins, dans des pays, Thaïlande, Birmanie, où la répression est très forte. Et cette jeunesse ne veut pas se laisser compter. Et dans la mesure où la Chine soutient les régimes répressifs, la Chine est mise en accusation pour être le soutien à des régimes qui viennent contredire les aspirations de cette jeunesse. Donc effectivement, dans ces pays, l'image de la Chine est très négative auprès de la jeunesse. D'ailleurs, parfois en Birmanie, on s'est attaqué à des entreprises chinoises et la Chine est tenue responsable de la répression faite par ses gouvernements nationaux. Et donc il y a à chaque fois des racines nationales et en même temps un phénomène plus large, plus régional, qui vient réunir l'ensemble de ces protestataires.
Alors, quelle attitude les Américains peuvent-ils avoir face à ces pays qui aspirent à la démocratie, cette jeunesse qui aspire à la démocratie ? Alexandra de Hoopscheffer, cette question, les militants hongkongais pro-démocratie ont-ils besoin du soutien des États-Unis face au gouvernement chinois ?
Alors, ça intéresse de très près la diplomatie américaine, puisque ces mouvements de jeunesse vont dans le même sens que les principes défendus par les États-Unis. C'est-à-dire, on est en plein cœur de cette bataille des idées, encore une fois, entre le système démocratique, le système autoritaire. Et on voit d'ailleurs que ces régimes en Thaïlande, en Birmanie, surfent vraiment sur le modèle chinois. C'est-à-dire de dire, vous voyez, le modèle chinois, c'est un régime autoritaire, mais qui réussit super bien économiquement, qui croit, qui est en pleine croissance, en prospérité économique. C'est tout ce discours-là, anti-valeur universelle, qui est un discours contre lequel cette jeunesse, finalement, s'oppose. Donc, ce que font les Américains, déjà, le premier outil privilégié, ce sont les sanctions, comme toujours. Donc là, on a une série de sanctions américaines contre les gouvernements hongkongais, contre les Chinois, etc. La deuxième chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on va voir de plus en plus une pression américaine contre les entreprises qui continuent à exporter ou à vendre en Chine des équipements de surveillance, des technologies qui pourraient servir à des fins oppressives par la Chine ou par le gouvernement de Hong Kong, par exemple. Donc, quelque chose de très concret. Et puis, enfin, la troisième chose aussi que Tony Blinken, secrétaire d'État américain, a fait référence il y a quelques jours dans une interview, les États-Unis seraient également prêts à accueillir sur leur sol des immigrés de Hong Kong si la situation venait vraiment à dégénérer.
Nicole Bacharan, jusqu'où peut aller cette confrontation ? Est-ce qu'elle peut dégénérer militairement ? Et on pense à Taïwan qui est protégé par les Américains, mais qui est revendiqué par la Chine. Est-ce que Taïwan pourrait être l'étincelle qui fait que cette confrontation pourrait basculer dans une confrontation militaire ?
C'est certainement un des points vraiment les plus sensibles, parce que tous les mouvements de jeunesse dont on parle, ils secouent, disons, les pays où ils se produisent, ils dénoncent le modèle chinois, le modèle autoritaire dont ils ne veulent surtout pas, mais il n'y a pas pour la Chine, à l'heure actuelle en tout cas, d'enjeu territorial. Il y a un enjeu territorial en fait sur Hong Kong qui est placé avec une loi sur la sécurité qui vraiment est extrêmement répressive sur la liberté d'expression et les jeunes manifestants risquent très très gros. Mais sur Taïwan, il y a un enjeu de domination politique et territoriale. Et c'est un pays très peuplé, c'est un pays prospère et que les Chinois ont réussi à maintenir à l'extérieur ou complètement à la marge de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, alors que la gestion par Taïwan de la pandémie a été extrêmement efficace. Donc il y a une vraie action permanente de la Chine pour essayer de les tenir hors de la communauté internationale. Mais pour les Américains, ça a toujours été le sujet tabou. Il ne fallait pas toucher à Taïwan. Donc je pense que là, on est dans un... dans une sorte de bras de fer où les deux parties ont parfaitement conscience de ce qui se joue. Et à mon avis, c'est sur Taïwan que les Chinois se montreront peut-être le plus prudents, parce qu'ils savent que là, les Américains ne céderont pas, alors que n'oublions pas que sur Hong Kong, finalement, il ne s'est rien passé.
Pascal Boniface, est-ce qu'on peut dire que Hong Kong, ça y est, c'est fait, ça a basculé sous le régime chinois, et que le prochain test, la prochaine étape qu'on va tous regarder, ça va être Taïwan?
Oui, parce que la situation n'est pas tout à fait la même. Il y a des éléments de comparaison. Les deux territoires sont revendiqués par la Chine, sauf que les États-Unis n'avaient pas d'alliance militaire avec Hong Kong, alors qu'ils en ont eu avec Taïwan. Et c'est la crédibilité américaine qui est en jeu. Si les Chinois faisaient une opération contre Taïwan et que les Américains ne réagissent pas, eh bien, c'est toute leur garantie par rapport au Japon, par rapport à la Corée, par rapport aux Européens, qui serait en jeu. En même temps, les Chinois savent que s'attaquer à Taïwan, c'est quand même justement le risque d'une confrontation directe avec les États-Unis. Alors on peut dire que, heureusement, la dissuasion fonctionne au sujet de Taïwan et qu'on est dans une sorte de statu quo. Taïwan jouit d'une indépendance de fait, mais qui n'est pas reconnue en droit, mais elle en bénéficie. Et tant qu'elle ne proclame pas officiellement son indépendance, Pékin laisse faire. Si Taïwan proclamait officiellement son indépendance, les choses changeraient. Et pour Taïwan, il est préférable de continuer à être indépendant de fait et d'être finalement à l'abri des tentations annexionnistes de Pékin, qui, il faut le rappeler, dit qu'il ne renonce pas à la réunification, y compris si besoin était par la force. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire et pour l'instant, les Chinois estiment que leur modèle conduira Taïwan à la réunification pacifique. Sauf que, bien sûr, ce qui s'est passé à Hong Kong récemment vient dissuader les Taïwanais, si certains étaient tentés par cela, d'espérer d'appliquer le système une nation, deux systèmes. On voit que ça ne marche pas à Hong Kong et les Taïwanais ont bien compris cette leçon.
Antoine Bondaz, et nous dans tout ça? C'est très loin, Taïwan. Au fond, on a envie de se dire... ne nous mêlons pas de cette affaire où il n'y a que des coups à prendre. Ça concerne les Américains et les Chinois. Et l'objet de la convoitise, c'est Taïwan.
Premièrement, Taïwan, ce n'est pas si loin que ça. Vous avez des dizaines de milliers d'Européens qui vivent à Taïwan. La communauté française est d'ailleurs la plus importante parmi les pays de l'Union européenne. Vous avez des échanges économiques avec Taïwan qui sont fondamentaux aujourd'hui et cruciaux. Certains semi-conducteurs, notamment ceux à plus haute valeur ajoutée, viennent de Taïwan. Et si demain, vous avez un conflit avec Taïwan, l'industrie automobile, l'industrie spatiale européenne s'en verra directement infectée et pendant des mois. Et donc, il y a des enjeux qui affectent directement nos intérêts, sans évidemment ajouter que laisser une puissance autoritaire envahir, de fait, un système démocratique pourrait, dans la périphérie de l'Europe, donner des idées à d'autres pays qui pourraient se sentir légitimes pour le faire. Et donc ça, c'est très important. Mais juste un point, le conflit avec Taïwan, ce n'est pas simplement une guerre. Le scénario de conflit avec Taïwan, ça peut être la violation de l'espace aérien de Taïwan, ça peut être l'occupation d'une île taïwanaise au large des côtes chinoises, ça peut être un blocus maritime autour de Taïwan, et c'est bel et bien vis-à-vis de tous ces scénarios qu'il faut se préparer et réfléchir à une réponse européenne, notamment pour dissuader la Chine de changer le statu quo.
Pascal Boniface, les Américains veulent-ils nous embarquer dans cette croisade contre la Chine? Et y avons-nous intérêt? Je le répète, hein, Boris Johnson du Royaume-Uni a dit « mais on n'a aucun intérêt, nous, à aller se faire un ennemi de la Chine. Il faut avoir un regard lucide, disent les Anglais, vis-à-vis de ce grand pays qu'est la Chine et qui est là. »
Il faut toujours avoir un regard lucide sur tous les sujets en général. Alors effectivement, les Américains veulent nous enrôler dans cette rivalité avec la Chine. Ils ont voulu enrôler l'Australie, l'Inde et le Japon. La Corée du Sud se laisse moins entraîner. Et il est plus facile pour Biden d'entrer les Européens que ce n'était pour Trump. Et en fait, Biden est beaucoup plus gênant pour Pékin que n'était Trump, parce que Trump était tellement répulsif pour ses alliés qu'il n'avait aucune envie de se laisser embarquer dans une quelconque coalition contre la Chine. Avec Biden, c'est plus compliqué, parce que sur tous les sujets, démocratie, droits de l'homme, nous sommes plutôt du côté américain que du côté chinois, clairement. Mais par contre, la question de la rivalité pour la suprématie, qui est quand même l'enjeu fondamental entre Washington et Pékin, et moins le problème des Européens. Donc nous devons effectivement être lucides, c'est-à-dire quels sont nos intérêts. Et lorsque les Américains parlent de coercition économique que la Chine fait valoir à l'égard de ses alliés. La BNP, elle n'a pas été condamnée à 9 milliards d'amende par la Chine, c'est bien par les États-Unis. Donc il faut que l'on défende nos intérêts aussi par rapport à cela. Donc il faut distinguer le volet politique du volet économique.
Que nous aussi, nous ayons un regard lucide vis-à-vis des États-Unis qui, effectivement, en matière d'extraterritorialité, savent nous imposer leurs intérêts. Alors, à côté de cette offensive contre la Chine, il y a également une offensive cette semaine contre la Russie et plus particulièrement contre la personne de Vladimir Poutine, puisque lors d'une interview télévisée mercredi dernier, Joe Biden a qualifié Vladimir Poutine d'être, je cite, un tueur, une accusation que le maître du Kremlin a tournée en dérision en rétorquant à Joe Biden, c'est celui qui dit qui il est. Véridique, sujet de Julien Launay et Michel Bouilly.
Premier entretien télévisé pour Joe Biden depuis son entrée en fonction le 20 janvier. Mercredi, sur la chaîne ABC, le nouveau président américain n'a pas mâché ses mots. Ton très offensif et même hostile à l'égard de Vladimir Poutine, avec une accusation lourde.
Vous connaissez Vladimir Poutine ? Pensez-vous que c'est un tueur ?
Oui, je le pense.
Alors quel prix doit-il payer ?
Le prix qu'il paiera, vous le connaîtrez bientôt.
Déclaration choc. Sans préciser toutefois s'il pensait à l'empoisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny. Fait inédit depuis 1998, Moscou ne tarde pas à rappeler son ambassadeur aux États-Unis pour des consultations. De quoi réveiller les angoisses de guerre froide, propos assumés par l'administration américaine.
Est-ce que le président Joe Biden regrette d'avoir qualifié Vladimir Poutine de tueur ?
Non, le président a répondu de manière directe à une question directe.
Pris pour cible, le maître du Kremlin riposte et il n'hésite pas à répliquer avec ironie.
Vous savez, je me souviens que lorsque j'étais petit, quand on se disputait pendant la récréation, on avait l'habitude de dire « c'est celui qui dit qu'il l'est ». Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas simplement qu'un dicton enfantin ou une plaisanterie. Il faut y voir une signification importante sur le plan psychologique. Nous voyons toujours en l'autre nos propres caractéristiques et nous pensons donc qu'il nous ressemble.
Le président russe propose à son homologue de se parler rapidement et de rendre public le contenu des échanges. Pas de réponse de Washington et de plus en plus de fritures sur la ligne avec Moscou. Joe Biden entend bien tourner la page de la connivence avec Vladimir Poutine sous l'ère Trump. Rupture formulée comme telle en février, à l'occasion d'un discours de politique étrangère.
J'ai clairement dit au président Poutine, d'une façon différente de mon prédécesseur, que le temps où les États-Unis se soumettaient face aux actes agressifs de la Russie, avec l'ingérence dans nos élections, les cyberattaques, l'empoisonnement de ses citoyens, était révolu. Nous n'hésiterons pas à augmenter le prix à payer par la Russie et à défendre l'intérêt vital que nous portons à notre peuple.
L'un des sujets qui fâche le plus, ce sont ces soupçons d'ingérence russe dans les élections aux États-Unis. Selon un rapport des services du renseignement américain publié cette semaine, le schéma s'est reproduit en 2020. La dénonciation de cette tentative de manipulation a été balayée d'un revers de main par le Kremlin.
Ce rapport est incorrect, tout à fait sans fondement et sans preuve.
Dans le lot des crispations, il y a aussi cette gigantesque cyberattaque aux États-Unis. Décelée en décembre, elle a visé notamment plusieurs agences gouvernementales. Pour les services du renseignement américain, la Russie en est probablement à l'origine. Alors faut-il craindre une escalade de tensions ? Les Européens le redoutent.
Depuis que l'administration Biden est entrée en fonction, les conversations que nous avons eues avec différents représentants ont montré sans ambiguïté qu'il y aura un langage très clair à Washington sur la Russie.
Joe Biden face à Vladimir Poutine. Les deux hommes ont tout de même trouvé un terrain d'entente sur l'armement nucléaire. En janvier, ils ont acté la prolongation du traité New Start, plafonnant leurs arsenaux stratégiques.
Alors, c'est celui qui dit qu'il est. Oui, c'est bien ce qu'a répondu Vladimir Poutine à Joe Biden. On parle là du président de la Russie qui répond au président des États-Unis. On a vraiment l'impression d'un niveau de cours d'école. Je m'adresse à vous, Antoine Bondaz, parce que vous aussi, vous avez été victime, vous êtes chercheur. Et suite à l'une de prise de vos positions, vous avez été victime d'une insulte de la part de l'ambassadeur de Chine en France, qui sème d'ailleurs, on est ravis de vous avoir, parce que ça sème un émoi dans la classe politique française, qui vous a traité, je crois, de petite frappe.
Petite frappe.
C'est curieux, c'est le niveau qui baisse ou c'est Donald Trump qui a libéré une parole? Les insultes maintenant sont faciles dans les relations diplomatiques?
Je ne pense pas que ce soit lié directement à Trump. Je pense que c'est premièrement une insulte gratuite, sans aucune argumentation, ouais, qui ne grandit pas une ambassade dont l'ambassadeur a quand même un rang de vice-ministre au sein du ministère des Affaires étrangères chinois. Deuxièmement, ça rentre évidemment en contradiction avec le respect et le respect de la dignité nationale qui est demandée en permanence et à juste titre par les diplomates chinois à l'étranger. Et on n'imagine pas un seul instant l'ambassade de France en Chine se comporter de la même façon. Mais au final, c'est assez cohérent avec la personnalité et le style de cette ambassade depuis déjà 18 mois, surtout cohérent avec le fait que les attaques vis-à-vis des journalistes français, les injonctions vis-à-vis de certains parlementaires français et désormais les insultes contre un chercheur sont quelque chose à laquelle le gouvernement français ne répond pas forcément directement et donc l'ambassade continue. En Chine, on parle souvent, et dans la théorie léniniste, de la stratégie de la baïonnette. Vous vous enfoncez la baïonnette, tant que vous pouvez l'enfoncer, vous continuez de le faire. Mais ce qui est inquiétant, c'est évidemment qu'au-delà des mots, et en soi, cette insulte ne va pas affecter en rien mon travail, c'est la question qui se pose sur cette rhétorique complètement décomplexée à l'étranger et sur la liberté que se donne une ambassade sur le territoire français, ouais, d'insulter des journalistes ou d'insulter des élus.
Mais Nicole Bacharan, et c'est vrai qu'on pense à Donald Trump, parce que maintenant, on se dit, les noms d'oiseaux, les insultes, ça vole entre les capitales. C'est quelque chose qui ne se faisait pas. Et on a l'impression de relations très viriles maintenant entre les diplomaties dans le monde.
Mais je pense qu'on est aussi à l'ère des réseaux sociaux où toutes les puissances du monde utilisent également les réseaux sociaux. Mais en ce qui concerne les rapports entre Joe Biden et Vladimir Poutine, d'un côté, Joe Biden a dit dans cette interview que Poutine était un tueur, chose qui est avérée. Et d'ailleurs, j'étais étonnée que ça fasse autant de réactions en Europe, parce que dans la presse américaine, c'est passé, on en a parlé, mais enfin assez peu, comme d'une chose finalement assez normale. Mais la réaction de Vladimir Poutine à ce niveau enfantin, comment dire, on peut aussi la mettre en rapport avec le langage extrêmement brutal qui lui est arrivé d'utiliser, souvenons-nous de ce dont il menaçait les Tchétchènes au temps de la guerre de Tchétchénie. Donc de toute manière, on ne peut pas dire que Vladimir Poutine se soit en général cantonné au langage diplomatique. Mais comme je le disais au début de notre émission, Joe Biden n'a pas de temps à perdre. Donc ce qu'il dit à Poutine, il l'a répété d'ailleurs dans cette conversation, il lui a dit, écoute, je sais qui vous êtes, vous savez qui je suis, on se connaît, donc on peut y aller franchement et on va discuter des sujets communs qui nous intéressent. Et je voudrais rappeler juste deux événements très très rapidement qui ont eu lieu cette semaine. L'un, 150 élus locaux de la Fédération de Russie, des 56 régions, se sont réunis à Moscou. Ils ont tous été arrêtés. La police est entrée et les a tous embarqués. Ils vont tous avoir des procès. Ça ne s'est pas produit depuis Lénine en 1918. Donc Poutine est quelqu'un qui est menacé à l'intérieur et qui est très occupé à écraser partout les oppositions. Autre événement, à Moscou également cette semaine, il y a eu une réunion sur l'Afghanistan avec des représentants russes, chinois, talibans, américains. La prochaine réunion est prévue en Turquie dans un mois. Tout cela pour dire que les relations entre les États-Unis et la Russie ne sont pas bloquées, elles sont juste plus franches.
Alexandra de Hoopscheffer, question de Gonzague en Loire-Atlantique. Pourquoi Biden traite-t-il Poutine de tueur ? La Russie, ça représente toujours une menace pour les États-Unis ? Qu'est-ce que ça...
Bien sûr. Alors, la question que ce journaliste a posée à Biden, c'est le même journaliste qui a posé exactement la même question à Donald Trump au début de son mandat. Trump, on se souvient ou peut-être pas de sa réponse, et il n'avait pas répondu oui, justement. Il avait dit, en fait, non, pas vraiment. Regardez, est-ce que les États-Unis, il n'y a pas des tueurs aux États-Unis? Est-ce que nous, on respecte vraiment les droits de l'homme, etc. Donc, la réponse de Biden, qui est une réponse affirmative, était délibérée, c'est pas du tout une gaffe, même si on sait que Joe Biden est un gros gaffeur, c'était pas une gaffe, sa réponse était de trancher avec la réponse qui était plus qu'ambiguë de Trump il y a deux ou trois ans. Donc ça, c'est déjà le contexte. La deuxième chose, c'est que Biden est le premier président américain depuis peut-être 20 années à arriver à la Maison-Blanche avec un refus de reset avec la Russie, c'est-à-dire de remise à plat et d'avoir un peu cette idée naïve qu'on peut reconstruire les relations avec la Russie. Il arrive avec une vision beaucoup plus réaliste aussi parce qu'il est entouré par des conseillers qui le poussent dans cette direction. Et la troisième chose, c'est qu'il subit une pression énorme à Washington pour montrer une posture musclée et robuste envers Poutine. Vous avez montré le rapport donc, des agences de renseignement américains qui certifie que Poutine a joué un rôle dans l'interférence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2020 et également pour salir l'image de Joe Biden et de son fils Hunter tout le long de la campagne présidentielle. Et puis il subit aussi une pression du parti républicain et notamment, et là ça concerne l'Europe et l'Allemagne plus particulièrement, Nord Stream 2, les républicains veulent que Biden approuve des sanctions encore plus fermes contre les entreprises et toutes les entités qui font partie de ce projet.
Gazoduc qui doit amener du gaz en Allemagne.
Exactement, et qui pour Washington est une idée insupportable puisque c'est un projet qu'il considère être plus qu'un projet énergétique mais géopolitique et qui cherche à diviser davantage l'Europe sur la question de l'énergie.
Pascal Boniface, on disait tout à l'heure qu'il fallait choisir son camp maintenant entre le modèle chinois ou le camp occidental, le modèle américain. Les Russes, alors, culturellement, on se dit qu'ils sont plutôt, on se disait qu'ils étaient occidentaux, mais est-ce qu'ils sont en train finalement d'opter pour le modèle chinois? Est-ce qu'un rapprochement Moscou-Pékin est dans les tuyaux?
Oui, depuis déjà plusieurs années, Moscou joue la carte de Pékin, mais en faisant attention parce qu'ils savent très bien que le rapport de force n'aurait pas favorable et que l'écart de puissance entre Pékin et Moscou est tout à fait à l'avantage de Pékin. Et donc, effectivement, il y a des géopolitologues aux États-Unis comme Stéphane Walt ou Jean de Machemeyer qui disent « Attention, on pousse les Russes dans le bras des Chinois, il faut faire attention ». Et en même temps, les Russes ne veulent pas être trop étouffés par les Chinois. Donc, ils cherchent des alternatives. Mais effectivement, Poutine, je crois, a renoncé à l'amélioration des relations avec le monde occidental. Il en a pris son parti, tant avec les Européens qu'avec les États-Unis. Et il cherche des alliances dans le Sud, avec les BRICS, etc. Et donc, il a fait... Parce que Obama avait voulu appuyer sur le bouton reset, il n'a pas pu le faire. Et même si Trump était personnellement proche de Poutine, il y a eu des sanctions supplémentaires qui ont été prises à l'encontre de la Russie pendant le mandat de Donald Trump. Donc en fait, les relations entre Moscou et Washington ne sont pas bonnes et il n'y a pas d'amélioration notable, c'est plutôt une dégradation continue. Et Poutine en prend son parti, et la preuve, la façon dont il a traité le ministre des Europes, enfin le délégué européen Josep Borrell, en expulsant des diplomates européens le jour où le commissaire européen est à Moscou, montre qu'il ne prend plus tellement de gants par rapport aux Occidentaux.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alexandra de Hoopscheffer, que fera Joe Biden si la Chine attaque Taïwan? Question de Paul à Genève.
Ils sont déjà en train d'anticiper ce scénario, très concrètement. Et d'ailleurs, ça va être la troisième fois depuis l'inauguration de Biden que les États-Unis envoient des destroyers, c'est-à-dire des navires de guerre américains, autour de Taïwan. Donc, ils sont déjà en train d'anticiper ces scénarios. Le Pentagone, moi je me souviens, j'avais rassemblé des responsables américains, européens autour de la table en 2014-2016. Ils étaient déjà en train d'anticiper une potentielle guerre, vraiment d'ordre conventionnel avec la Chine, peut-être autour de Taïwan, mais aussi dans la mer du Chine du Sud, où il y a vraiment une militarisation de la stratégie chinoise. Donc tous ces, je dirais, ces scénarios d'ordre plus conflictuel, militarisé, sont vraiment pensés, réfléchis de manière très concrète, très sérieuse par les États-Unis.
Mais attends, c'est très inquiétant. Parce qu'on dit potentiellement, ça peut déboucher sur une troisième guerre mondiale.
Écoutez, c'est là où on est en décalage, en fait, nous, Européens, avec les Américains. Les Américains, notamment au Pentagone, sont en train de rapprocher la deadline, le délai d'une éventuelle guerre d'ordre militaire avec la Chine, de 5 ans chaque année. Ce scénario, pour eux, est beaucoup plus concret, et notamment dans la sphère maritime. Il y a un rapport du Pentagone qui est sorti il y a quelques mois, qui montrait aujourd'hui que la Chine est devenue la première puissance maritime en termes de navires de guerre. Elle a dépassé les États-Unis. Donc c'est notamment la puissance maritime chinoise qui aujourd'hui est source d'énormes inquiétudes du côté de Washington. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une volonté de l'administration Biden de pouvoir se retirer tranquillement un petit peu de l'Afghanistan, etc., pour pouvoir réinvestir dans les capacités militaires dans la sphère indo-pacifique.
Bondaz, Taïwan pourrait être le Sarajevo qui déclencherait une guerre mondiale ?
Ce serait bien plus grave que Sarajevo, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Sarajevo, je parlais de la Première Guerre mondiale.
Ah, pardon. Voilà, très bien. Ça. Oui, mais alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est encore une fois, il ne peut pas y avoir un conflit local avec Taïwan, puisque les Américains ont fait des garanties de sécurité. Si les Américains ne les honorent pas, alors les Coréens, les Japonais, mais aussi les membres de l'OTAN, n'auront pas confiance envers les États-Unis. Et donc les Américains doivent intervenir d'une façon ou d'une autre s'il y a un conflit. Et donc la question qui se pose, c'est que feront les Européens ? La question, elle n'est pas aujourd'hui pour les Européens de s'aligner à 100% sur les États-Unis, mais au moins de se poser la question. S'il y a un conflit, et encore une fois, on en parlait tout à l'heure, quels sont les scénarios différents de conflits de plus ou moins forte intensité, quelle sera la position de l'Union européenne et des différents États membres ? Et surtout, quel peut être le rôle de l'Union européenne en prévention d'un conflit. J'en parlais il y a quelques semaines au Parlement européen, puisque j'étais auditionné justement sur cette question-là. Et mon message était clair, c'était l'Union européenne et les États membres ont un rôle à jouer, non pas tant s'il y a un conflit, mais pour prévenir le conflit, pour bien envoyer un message clair à la Chine que l'Europe s'oppose à un changement unilatéral par la force du statu quo, puisqu'encore une fois, s'il y a un conflit demain sur Taïwan ou autour de Taïwan, les Européens, de fait, vivront les conséquences, seront impactés par ce conflit.
Nicole Bacharan, on se dit que l'Amérique sous Donald Trump nous donnait l'impression de ne plus vouloir faire de guerre. D'ailleurs, Donald Trump se targue d'avoir initié aucun conflit pendant son mandat. Est-ce que les Américains sont prêts à envoyer des boys à l'autre bout du Pacifique pour une cause peut-être qui les dépasse ?
Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils n'ont aucune envie de faire la guerre, si vous parlez des citoyens américains. Et d'ailleurs, si on revenait sur les guerres du passé, on verrait qu'ils ne sont jamais, je parle toujours du côté des citoyens, ils n'ont jamais voulu entrer dans aucune guerre. Donc évidemment, cet état d'esprit-là, il n'a pas changé. Mais comme le disait Alexandra, comme le disait Antoine, sur la question de Taïwan, ils n'auraient pas le choix. Ils n'auraient réellement pas le choix. Et c'est, à mon avis, la meilleure garantie de paix à Taïwan. C'est que la Chine est parfaitement consciente de cela, qu'il y a des étapes qu'ils ne doivent pas franchir, parce que sinon, les États-Unis et leurs alliés n'auraient pas le choix. Et donc, il ne s'agit même pas de se demander est-ce que les Américains auraient envie d'y aller. Non, ils n'auraient jamais, jamais, jamais envie d'y aller. Bien au contraire, mais ils n'auraient pas le choix.
Pascal Boniface, est-ce qu'on peut espérer ainsi, comme durant la guerre froide, une sorte de dissuasion, au fond, le statu quo, parce que sinon, on ne sait pas où ça se termine.
C'est pour cela que Taïwan ne proclame pas officiellement son indépendance, parce qu'il bénéficie en fait de l'indépendance sans avoir à la proclamer. Et donc, on se regarde un peu en chien de faïence, mais on ne déclenche pas le conflit. Et donc, il y a un statu quo, parce que un conflit serait effectivement une guerre mondiale. Il n'y aurait que des perdants, les Chinois y perdraient, les États-Unis y perdraient. Et donc, c'est la dissuasion, c'est qu'on a très peur, et c'est justement parce qu'on a très peur qu'on ne fait rien.
Question téléspectateur, quel est l'état des relations personnelles entre Vladimir Poutine et Xi Jinping ? Je ne sais pas qui veut répondre, Antoine Bondaz.
On n'a aucune information sur ce sujet, mais ce qui est très intéressant, c'est comment les autorités chinoises utilisent la relation avec la Russie pour renvoyer des messages à l'Europe, mais surtout aux États-Unis. On en parlait tout à l'heure, la coordination pré-sommet en Alaska avec le Japon, la Corée, l'Australie, les Européens. Les Chinois ont déjà répondu en annonçant que Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, se rendrait à Pékin dans les jours à venir et qu'il se coordonnerait post-sommet. Et ça, c'est un renvoi d'ascenseur des Chinois extrêmement intéressant et l'utilisation de la relation sino-russe.
Pascal Boniface, pourquoi les Ouïghours font-ils l'objet d'une telle persécution de la part du gouvernement chinois ?
Pour de multiples raisons. D'une part, parce qu'ils sont une minorité musulmane, que c'est un territoire riche en matières premières qui est aux marges de l'Empire, qu'il y a eu des actes terroristes et surtout qu'il y a une différenciation culturelle, que les Ouïghours veulent avoir leur autonomie culturelle, et que la Chine se livre à une colonisation en envoyant des Han, donc la majorité ethnique chinoise, pour peupler le territoire et qu'ils veulent finalement un peu éradiquer la culture musulmane des Ouïghours.
Nicole Bacharan, la communauté chinoise américaine est-elle stigmatisée? Alors, on la sait très importante en Californie, à San Francisco, par exemple. Hein.
Oui, la communauté chinoise aux États-Unis, en ce moment, elle est stigmatisée, mais... Vous savez, c'est un peu triste à dire, mais il ne s'agit pas de dire la communauté chinoise, il s'agit de dire les personnes qui ont un look asiatique. Et on ne fait pas beaucoup la différence dans leur origine. Et ce sont des immigrants qui ont été stigmatisés historiquement et très fortement au 19e, au 20e siècle. Je rappelle l'internement des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire américain, ou des Américains d'origine japonaise. Mais là, ce sont des choses qui se sont intensifiées justement avec la perception que la Chine est une puissance hostile et d'une certaine manière, et là vraiment ce ne sont pas mes paroles ni mon point de vue, mais qu'elle infecte le monde avec le virus. Et Donald Trump a beaucoup joué sur le virus chinois, et ça a été capté par d'autres Américains qui prennent ça d'une manière très primitive et très brutale, et c'est effectivement très dangereux sur le plan de la paix civile aux États-Unis.
Antoine Bondaz.
Sur ce point, très rapidement, il y a des propos qui ont été inadmissibles, tenus par l'administration Trump auparavant, y compris avec les qualificatifs de virus chinois et autres, qui ont pu attiser de fait les discriminations envers une communauté. Ce qui est très important, puisqu'il ne faut surtout pas tomber, entre guillemets, dans le jeu, notamment des autorités chinoises, qui considèrent aujourd'hui que toute attaque contre certaines politiques du gouvernement chinois serait en réalité un racisme anti-chinois. Il faut évidemment combattre ce racisme anti-chinois, combattre les discriminations anti-asiatiques en France en général. Il y a des procès en ce moment même. Il faut que ça montre l'exemple, mais qu'on arrive véritablement à faire la dichotomie entre des critiques de politique publique et évidemment une discrimination envers une communauté.
Alexandra de Hoopscheffer, d'un mot, la crise du Covid a-t-elle durci les relations entre les grandes puissances internationales?
Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, on parle du nationalisme vaccinal. Ça a créé une compétition énorme, alors que justement, au contraire, ça aurait dû faire l'objet d'une action collective. Le G20, l'OMS, le multilatéralisme n'a pas joué son rôle. Et aussi en grande raison à cause du manque de leadership américain sous Trump.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était très enrichissant, passionnant. Lundi, vous retrouverez Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est l'Hebdo.